Le débat du jour. Michaël Ponge.
Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Ils sont peu connus, ont les plus grandes peines du monde à recueillir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. Savent aussi qu'ils ont peu, voire aucune chance de s'asseoir un jour dans le fauteuil de l'Élysée. Et pourtant, ils tentent l'aventure, ce que l'on appelle les petits candidats à l'élection présidentielle française. Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Michel Alliot-Marie, Ramayad, Jean Lassalle, Jacques Cheminade, Alexandre Jardin, Christian Troidec ou Charlotte Marchandise, pour ne citer qu'eux. Peut-être n'avez-vous jamais entendu certains de ces noms. Alors pourquoi vouloir se lancer? Comment trouver la lumière, être audible quand les Fillon, Hamon, Macron ou Le Pen écrasent tout? Présidentiel, les petits candidats peuvent-ils se faire entendre? C'est notre débat ce soir sur RFI.
RFI.
Et pour en parler, deux invités. Christine Kelly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, écrivain, ex-membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et vous avez signé, mais ce n'est pas le sujet ce soir pour une fois, François Fillon, les coulisses d'une ascension, c'est aux éditions L'Archipel. Et face à vous dans ce studio, l'un de ceux que je viens justement de citer, Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques et surtout donc candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean Lassalle, je crois que je vous ai vu tiquer. Déjà, vous n'aimez pas ce terme de petit candidat.
Oui, parce que ça ne correspond absolument pas à l'idée que je me fais encore de la démocratie et de la démocratie en République. Il n'y a pas de petit ou de grand. D'abord, je suis un des plus lents de tous, donc c'est même pas physique. Et si c'était intellectuel, ce serait très très grave pour le pays des droits de l'homme.
Christine Kelly, est-ce que c'est un abus de langage journalistique que d'appeler ces candidats les petits, selon vous?
Ça correspond parfaitement au type de langage journalistique, mais parfaitement au type de langage réprimé par les politiques, ce qui est normal. C'est vrai que dans le langage institutionnel du CSA, on va dire des candidats à la présidentielle, qu'ils ont plus ou moins visibles, et on évitera le terme petit candidat parce qu'ils sont quand même candidats à la présidentielle. Mais c'est vrai que dans le milieu journalistique, on dit petit candidat.
Mais alors, est-ce que par ce terme-là, on réduit, selon vous, déjà leurs chances?
Non, je pense que leurs chances sont réduites avant de les dénommer petits candidats. Cela dit, pour moi, Jean Lassalle, par exemple, il fait partie des candidats qui sont quand même un peu médiatisés. On ne se rend pas compte, parce que moi, lorsque je m'occupais des temps de parole au CSA, à cette période de l'année, on a une 70 candidats à la présidentielle. Alors, évidemment, tous ceux qui se terminent par « on les entend tout le temps, Fillon, Macron, Hamon, mais... »
Mélenchon, qui est un petit, Mélenchon, qui est devenu grand, d'ailleurs.
Exactement, mais Nicolas Dupont et aussi, etc. C'est un petit aussi qui est devenu grand, mais il y a vraiment des dizaines de candidats dont on ne parle pas du tout et qui sont des petits, si vous permettez, monsieur le député, l'expression des tout petits candidats.
Alors Jean Lassalle, justement, est-ce que vous avez le sentiment d'être bâillonné, de ne pas avoir accès, comme les autres, aux plateaux de télévision, aux studios de radio?
Oui, et je dois dire que j'en suis attristé. Après tout, j'ai vécu un certain nombre d'épreuves, comme tout le monde, dans la vie. Mais j'en suis attristé pour l'idée que je me fais de l'information dans mon pays, voyez-vous. Le directeur de la télévision, de la radio-télévision romane, me faisait observer il y a 3 semaines qu'au cours des 15 dernières années, j'avais fait venir à Paris la totalité de la presse du monde entier par 3 fois, sans verser une goutte de sang, et à chaque fois sur des faits qui impactent le quotidien de nos compatriotes et d'une certaine vision de l'humanité.
Mais alors ça veut dire quoi? Qu'il faut communiquer ou s'y prendre autrement pour se faire entendre, contrairement aux autres candidats qui n'ont qu'à lever le petit doigt, Emmanuel Macron par exemple, dont on ne fait que parler en ce moment?
Non, c'est à mon avis une dérive de la République et de la démocratie à laquelle, à mon avis, les journalistes doivent être attentifs, parce que nous sommes, nous les politiques, très responsables. Nous ne sommes plus qu'un théâtre d'ombre, nous l'avons bien cherché. Nous avons laissé la bride au cou à la dictature qui s'est imposée à nous. Mais je trouve que la presse l'y aide grandement, et d'ailleurs dans le régime...
La presse qui vous confisque la parole, c'est ça en fait finalement?
Oui, parce que au fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis élu depuis 1977, je suis maire de ma commune depuis 40 ans, je suis le seul des clients, des candidats à la présidence de la République à avoir créé sa propre entreprise et à avoir salarié 10 personnes. Je vous assure que ça marque un esprit. Je suis un de ceux qui connaît le mieux la France. Je me demande bien sur quels critères on peut se baser pour faire cette sélection. Imaginez que Pierre Marcilassi, et M. Barbu ont été plus médiatisés du temps de l'ORTF que nous ne le sommes aujourd'hui. Et pourtant, l'ORTF ne rigolait pas. Il y a un très gros problème.
Mais alors, Christine Kelly, est-ce que ça veut dire que ces candidats, aux yeux du système médiatique, manquent, à défaut, comme le dit Jean Lassalle, de légitimité?
Alors, il ne manque pas de légitimité, mais si vous permettez, je vais défendre de l'intérieur ou de l'ex-intérieur du CSA et expliquer un peu les critères, comment est-ce qu'on voit les choses. Parce que j'ai rencontré beaucoup de candidats et je peux vous dire que je prenais vraiment mon travail à cœur et j'ai rencontré beaucoup. Je discutais avec eux, c'est la seule fois de l'histoire du CSA où il n'y a pas eu de recours contre le CSA pendant une élection, quand je m'occupais. 7 jours sur 7, j'avais tous les candidats au téléphone et je leur expliquais. J'avais joué la transparence, j'avais invité les candidats à leur montrer comment est-ce qu'on décompte le temps de parole, etc. Et beaucoup, il y en avait même qui m'insultaient, des comme on dit, si vous permettez encore l'expression, des petits candidats, me disant oui, ça ne respecte pas les règles de la démocratie, etc. Mais pourquoi? En fait, les règles du CSA sont basées un peu, monsieur le député ne sera certainement pas d'accord, mais sur ce qui est un peu logique, où plus un candidat est dynamique dans sa campagne, plus on reflète sa campagne. Plus un candidat a de nombre de personnes dans ses meetings, plus on va refléter sa campagne. On ne demande pas aux médias de créer un candidat, mais de refléter la campagne d'un candidat. Donc, les critères, c'est la représentativité aux dernières élections, la représentativité dans les sondages. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les médias n'ont pas pour responsabilité de donner de la visibilité à un candidat qui, parfois, quand je les recevais, n'ont pas de meeting, n'ont pas de parti, n'ont pas de supporters, n'ont pas d'adhérents, mais de refléter leur campagne.
Alors justement, on va faire une petite précision à ce sujet. Aujourd'hui, depuis le 1er février en fait, nous, les médias, sommes entrés donc dans ce décompte de temps de parole et de temps d'antenne. C'est, comme vous l'expliquiez, en fonction de la représentativité de ces candidats. C'est l'équité qui s'applique aujourd'hui jusque 2 semaines avant l'élection où on sera en fait dans la campagne officielle. Les règles ont changé.
Et même dans cette équité, il y a 2 temps.
Il y a 2 temps. Il y a le temps de parole et le temps d'antenne. Le temps d'antenne, c'est quand nous, journalistes, nous parlons, nous évoquons un candidat ou son programme.
Alors en fait, il y a 3 phases. 1er février au 19 mars, c'est-à-dire la veille de l'annonce officielle des candidats par le Conseil constitutionnel. Voilà, Jean Lassalle, il fait partie peut-être des 10 candidats et à partir qui ont leurs 500 signatures. Et à partir de ce moment-là, il y a donc maintenant c'est un temps d'équité, de temps d'antenne, de temps de parole. À partir de ce moment-là, un deuxième temps d'équité et de temps d'antenne et de temps de parole uniquement avec les 10 ou 5, 8 derniers candidats qui auront leurs 500 signatures. Mais attention, il faudra par exemple qu'ils soient d'à peu près dans les mêmes émissions, à peu près avec une visibilité comparable. Ensuite, on arrive aux 15 jours avant le premier tour. Là, c'est le code électoral directement qui impose 15 jours de temps d'égalité de temps de parole.
C'est un petit peu dur à suivre, Christine Kelly. Ce qu'il faut bien expliquer, en fait, c'est que ce qui change là cette année, c'est la première fois. Avant l'élection, on avait 5 semaines de stricte égalité.
Aujourd'hui, je me suis battue pour ça. Je suis très contente qu'on y soit arrivé. Je me suis bagarrée l'année dernière présidentielle pour dire que ces 5 semaines d'égalité du temps de parole et du temps d'antenne entraînaient la disparition systématique des émissions.
Mais aujourd'hui, on est réduit à 2 semaines. Les candidats sont réduits à 2 semaines d'égalité. Jean Lassalle, est-ce que vous avez l'impression, le sentiment que le CSA, eh bien, vous bâillonne puisque vous n'avez plus ces 5 semaines de stricte égalité, mais plus que 2 semaines.
Ceux qui ont leur signature.
Ceux qui ont leur signature, évidemment, on imagine que vous les aurez peut-être.
Oui.
Permettez-moi d'abord, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, de dire à Christine Kelly l'admiration que je lui porte à titre personnel pour le courage de son engagement. Voilà, on n'y a pas plus.
Merci.
Je dois dire ensuite que la démocratie, elle n'est pas taillée en rondelles, c'est pas n'importe quoi. La démocratie, soit on fait confiance au peuple, et le peuple, je le crois assez grand, mais c'est vrai qu'il y a 30 ans qu'on s'en est pas occupé, pour qu'il tranche cette question. Il y a 500 signatures à obtenir, c'est vrai. Mais vous avez
on
vu.
On va en parler des signatures, mais bien sur ce temps d'antenne auquel vous avez droit, l'équité, l'égalité. Est-ce que vous avez le sentiment que le CSA vous met des bâtons dans les roues?
Mais je ne sais pas si c'est le CSA. En tout cas, il y a une affaire précise sur laquelle j'ai interrogé le président du CSA il y a un mois, j'ai toujours pas de réponse. Laurent Ruquier, on n'est pas couché sur France 2, s'est livré à un véritable attentat. politique contre moi. 60 minutes, 55 minutes d'enregistrement, 34 minutes effectives, et il a enlevé 4 éléments majeurs de discussion. C'était pas rien, c'était aujourd'hui l'utilisation, comment circule la viande dans le monde. C'était la notion de France éternelle, tout ça râpé. Et j'ai interpellé le président du CSA avec madame la présidente de France Télévisions demandant à regarder la totalité de l'émission. Eh bien, je n'ai toujours pas de réponse. Alors là, je me pose effectivement beaucoup de questions sur le CSA.
Je vous propose d'écouter ce que dit le sociologue des médias Jean-Marie Charon, qui était chez nos confrères de France Info il y a quelques jours, à propos donc de ces temps de parole et ce qui est imposé aux médias. Écoutez.
On est complètement un peu dans du contresens. Et le risque, surtout, c'est que quand on a très nombreux candidats, eh bien, on arrive souvent en fin de campagne, au moment où les choses les plus décisives vont être à traiter, eh bien, on va surtout faire du temps pour que chacun soit bien représenté. Et là, on va souvent avoir un traitement un peu à plat. On va prendre des images, on va prendre des sons, par exemple sur les meetings, qui ne sont pas forcément une information, je dirais, vraiment à valeur ajoutée, du point de vue, je dirais, du compte-rendu, de l'analyse qu'un média doit faire en période électorale.
Christine Kelly, ex-membre du CSA, est-ce que vous estimez, comme le dit Jean-Marie Charon, qu'on est parfois dans de l'absurde avec ces règles que les médias doivent respecter ?
Pas du tout, pas du tout. Et là, franchement, de l'extérieur, on a du mal à comprendre, mais c'est très important de savoir qu'il y a une révolution pour les médias, notamment, qui se disaient que voilà, les 3 semaines en plus d'égalité du temps de parole, c'était impossible à tenir, et toutes les émissions politiques s'arrêtaient au moment où on a enfin le nom des candidats à la présidentielle. Là, une absurdité totale. Maintenant, les règles ont été changées. C'est-à-dire que pour les 10 candidats, on va dire officiels, ils auront là de l'équité et là, ça permettra aux médias de jouer. Parce que dans les 10 candidats, rappelons-nous de la présidentielle d'avant, on avait Jacques Cheminade, il n'avait pas suffisamment de représentants pour aller dans les 200 chaînes et 900 radios que nous avons en France. On avait Nicolas Dupont-Aignan qui se fatigue, je le vois encore des fois dans les couloirs de certaines émissions. Il a des cernes jusque-là, il est le seul pratiquement à représenter son média. Marine Le Pen était comme ça avant, maintenant elle a multiplié justement les porte-parole. Et les candidats ne peuvent pas, du coup, être sur tous les médias, ce qui fait que les médias les interrogent moins, et ce qui fait que même les grands candidats aussi, on va dire, pour reprendre les termes, sont moins interrogés, et les émissions politiques s'arrêtaient au moment où on avait justement les temps de parole. Donc ça, franchement, c'est une véritable avancée pour la démocratie, pour les politiques, pour justement avoir de la politique et des émissions politiques en s'approchant de la présidentielle. Pour répondre, si vous permettez, au député Jean Lassalle par rapport à son interrogation, je comprends votre interrogation par rapport à ce qui s'est passé chez Roland Ruquier, mais le problème, c'est que le CSA ne peut pas s'occuper de la ligne éditoriale non plus de la chaîne. C'est libre à la chaîne et le CSA n'a pas le droit d'intervenir pour dire je coupe là, je coupe là, je coupe là. Malheureusement ou heureusement, c'est la liberté de la chaîne.
Ces temps de parole, vous le disiez, c'est une fois qu'on est candidat, Jean Lassalle. Vous en êtes où de vos parrainages?
Non, simplement, je dis encore une fois, après je tourne la page, mais comment le CSA peut-il juger qu'un candidat a une animation particulière sur la campagne? J'étais avant-hier soir dans une commune de 300 habitants et il y avait une centaine de participants. Nous avons échanger pendant jusqu'à 1h du matin. Qui peut juger de ce travail-là? Qui peut juger de la stratégie d'un candidat? Et au bout du compte, qui peut dire ce que cela deviendra? Une chose de certaine, c'est que si on n'est pas apparu sur un sondage d'opinion, qui sont complètement achetés, et si on n'est pas apparu sur les grands médias, à 3 semaines de l'arrivée, on n'a aucune chance. Ça, c'est certain. Qu'on ait les signatures ou pas. Donc les dés sont pipés.
Si vous avez les signatures, oui. Si vous avez les signatures, oui.
Il n'y a pas d'exemple en France.
Vous étiez en décembre aussi, vous avez 80 personnes, vous avez fait une réunion publique, j'ai suivi aussi. Mais c'est vrai que le média, par exemple, le CSA va demander aux médias, voilà, s'il y a 5000 personnes, oui. Ok, s'il y a 80 personnes, ben voilà, peut-être un peu moins de visibilité. Malheureusement, c'est comme ça. Mais je comprends le sentiment d'injustice.
Oui, d'injustice, mais c'est plus que ça. Soyons vigilants. Et je vous reconnais, je reconnais le progrès que vous avez fait faire. Mais enfin, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas d'exemple de candidat qui soit resté inconnu jusqu'à 3 semaines, qui gagne ensuite. C'est impossible. Donc les dés sont complètement pipés. C'est fait pour privilégier les Républicains, les socialistes, le Front National, qui est aujourd'hui le véritable variable d'ajustement, un peu Mélenchon, et surtout Macron. Voilà, c'est uniquement ça. Le reste, c'est plus de la démocratie.
On a évoqué les règles de temps de parole. Ce qui a changé aussi cette année, depuis l'année dernière et qui s'applique donc cette année, c'est le système des parrainages. Jean Lassalle, je vous ai demandé d'ailleurs combien de parrainages aujourd'hui ?
Écoutez, j'arrive tout doucement vers les 500, c'est-à-dire je suis à 480, mais il m'en faut 250 de plus, parce que quand je vois ce qui se passe, c'est-à-dire les pressions qui sont faites sur les maires, même des préfets.
On explique aux auditeurs ce qui a changé cette année, c'est que les parrainages doivent être rendus transparents. Tout le monde, on saura quel élu a donné sa signature à quel candidat.
La transparence, je me demande bien qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans. Parce que,
est-ce que c'est une difficulté de plus pour les candidats comme vous?
À votre avis. Avant, le candidat allait, et même avec ses faibles moyens. Moi, j'ai pas de faibles moyens. J'ai une équipe où j'ai 10 personnes qui peuvent prendre la parole. Je peux vous dire que ma directrice de cabinet peut tenir toutes les émissions. Bien. Alors, en quoi ça change? Eh bien, maintenant, c'est chacun des élus, des maires, des parrains qui va envoyer lui-même. Avec la marge d'erreur qu'il y a sur la date, sur ce qu'il convient de remplir.
C'était vos équipes qui devaient donc le transmettre.
Je le vois bien. Aux promesses de parrainage. Il y en a 5 sur 10 qui répondent aux critères. Il y a toujours un petit oubli quelque part. Mais ensuite, il y a la pression des Républicains et des socialistes au dernier moment qui va s'exercer. Tu vas pas parrainer Jean Lassalle quand même. Mais en fait, c'est un atypique. Et il y a même des préfets qui m'ont dit, écoutez, si vous voulez changer, allez-y avec Alexandre Jardin. C'est autre chose. Mais pas Jean Lassalle, quand même. Et puis pensez à la subvention,
mais
monsieur
le
maire.
C'est une révolution, cette histoire de transparence des candidats, parce que c'est du jamais vu. En général, on a le président du Conseil constitutionnel qui arrive le 20 mars et qui dit, voici les candidats. On ne connaît pas les signatures. Là, effectivement, ça fait une pression sur certains candidats, le fait d'avoir, parce qu'il va annoncer régulièrement, effectivement, les signatures, ça fait une vraie pression sur les candidats.
Ça va passer 2 jours. Par semaine au journal officiel. Le maire aujourd'hui est très mal dans sa peau, vous le savez. Sa commune est menacée, c'est d'ailleurs la dernière fois qu'il est maire, certainement. Il y a une pression forte que je n'ai jamais connue en 40 ans, des conseils municipaux qui se réunissent entre eux pour exiger que leur maire ne parraine personne, sinon ils démissionneront en bloc. Je le dis parce que c'est la vérité, mais si jamais ça démarre sur la toile, je n'ai aucune chance de finir. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres. Donc ça, c'est une pression, à mon avis, que nous avons instauré, avec l'immense plénitude de 9 députés en séance. Voilà, 9 députés en séance, il y avait. Alors que c'était un jour et 2 fois.
Jean Lassalle, une question toute simple face à toutes ces difficultés, tous ces obstacles sur votre parcours. Vous êtes vice-président du Modem, vous êtes mis en retrait du parti pour pouvoir vous présenter, mais pourquoi ne pas être passé par la primaire de la droite? Ça a permis à ceux que l'on appelle les petits candidats de se faire entendre. Jean-François Copé à droite, à gauche Monsieur Benhamias, ils ont pu porter leur voix dans le débat, on les a entendus. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu passer par ce système?
Pourquoi Monsieur Churchill était passé par un autre système? Pourquoi Gandhi était passé par notre système? Parce qu'il était confronté à une situation qui sortait des normes. Moi, je suis parti du Modem, j'ai essayé de partir le plus gentiment possible. Parce que j'ai été très heureux de la route que j'ai accomplie avec François Bayrou, que j'ai défendu passionnément pendant quelques 30 années, et un peu plus, et durant notre campagne électorale. Mais je considère que la troisième voie que nous avons essayé de rechercher, aujourd'hui, elle n'existe pas. Les Français n'aspirent pas à être rassemblés de Giscard d'Estaing à Rocard, mais dans la plénitude d'un extrême à l'autre, et surtout avec les 50% de ceux qui ne votent plus.
Christine Kelly, en 10 secondes, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que Monsieur Lassalle a eu tort, en tout cas, de suivre sa propre voie et de ne pas passer par la primaire?
Non, moi je trouve que chacun son style, chacun son choix, chacun sa route, chacun son destin. Et lorsqu'on voit aujourd'hui, il y a une véritable histoire, il y a une révolution qui se passe en ce moment. Que deviennent les primaires? À quoi servent les primaires? Est-ce qu'elles ont servi à quelque chose? Peut-être qu'il a eu raison. On veut autre chose. Regardons juste dans les primaires à droite et à gauche, une seule femme, un peu symbole, un peu juste pour mettre une femme. Regardons les résultats. Donc on voit qu'effectivement, les primaires, est-ce qu'elles ont servi à quelque chose? Peut-être, aujourd'hui, résistons.
Et c'est le mot de la fin au point d'interrogation. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce débat.
Merci
la réalisation.
Aussi.
Jérémy Bessé, merci à Marine Beccarelli pour la préparation. Bonne soirée à tous à l'écoute des programmes de Radio France Internationale.